Valentin Bertrand vous présente le journal. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les effets du dérèglement climatique de plus en plus marqués en Europe du Sud, c'est le constat alarmant du programme Copernicus. L'année dernière, le nombre de pics de chaleur a atteint un record.
Une chaise vide à la mémoire des otages toujours détenus par le Hamas. Les Israéliens célèbrent à partir d'aujourd'hui la Pâque juive après 200 jours de guerre et alors que les opérations s'intensifient à Gaza.
Juste après ce journal, le billet politique de Jean Lemarié. Retour sur l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine à Lille la semaine dernière. Et une question, faut-il parler de censure ? Inflation, dette et baisse des dons, l'argent, le nerf de la bataille des élections européennes. Fini les grands meetings, les partis optent plutôt pour des réunions à taille humaine. L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Le nombre de jours marqués par une chaleur extrême a battu un record. En ce jour de la Terre, c'est le constat sans appel du système européen d'observation Copernicus. Il publie son rapport annuel. Et Véronique Roberotte, les effets du dérèglement climatique sont donc de plus en plus marqués.
L'an dernier, le mercure a continué de grimper en flèche en Europe. Les températures ont été supérieures à la moyenne pendant 11 mois de l'année, à cause notamment de sa proximité avec l'Arctique, qui se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. L'Europe se réchauffe aussi plus vite, entre 2,3 et 2,6 degrés depuis le début de l'ère pré-industrielle, quand la moyenne mondiale est de 1,3 degré. Des records de chaleur ont été battus dans plusieurs pays, notamment au sud, avec des températures à plus de 40 degrés l'été et même en septembre dernier. L'année 2023 a ainsi connu un nombre record de jours de stress thermique extrême où les organismes sont mis à rude épreuve. Au cours des 20 dernières années, la mortalité liée à la chaleur a augmenté d'environ 30%, estime Copernicus. Vagues de chaleur et inondations généralisées, l'Europe dans son ensemble a connu en 2023 des précipitations supérieures d'environ 7% à la moyenne. Grèce, Italie, Pays-Bas, France, Allemagne, Bulgarie ont connu en fin d'année dernière des inondations parfois meurtrières. De façon spectaculaire, la hausse des températures produit ses effets sur les glaciers d'Europe. Les Alpes ont connu une perte de glace exceptionnelle entre 2022 et 2023. Les glaciers ont perdu environ 10% de leur volume restant.
Et on reste justement de l'autre côté des Alpes, en Italie, l'un des pays méditerranéens les plus en proie à ce dérèglement accéléré. Dans le pays, les scientifiques commencent à parler de tropicalisation ou d'extrémisation du climat. Car l'année dernière, en Italie, il y a eu plus d'un événement climatique extrême par jour, à Rome Bruno Duvic.
L'Italie a connu plus d'un événement climatique extrême par jour l'an dernier.
La Méditerranée est victime d'un punching ball climatique.
Antonello Pasini est physicien du climat au Conseil national de la recherche. Premier mouvement du punching ball, la chaleur. Ce sont les 45 degrés dépassés en juillet dernier en Sicile et Sardaigne. C'est aussi le record du zéro thermique battu dans les Alpes fin août. Il fallait grimper à 5 328 mètres dans l'atmosphère pour tomber à zéro. Les glaciers des Alpes ont perdu 10% de leur volume.
Avant, l'air circulait presque toujours d'ouest en est. Mais désormais, de plus en plus, il circule sur un axe sud-nord-nord-sud. Arrivent d'abord ces anticyclones africains très chauds qui apportent une grande chaleur, mais aussi la sécheresse.
L'Italie l'an dernier, c'est aussi 118 épisodes d'inondations dues à des pluies intenses. C'est le deuxième mouvement du punching ball.
Quand ces anticyclones repartent vers l'Afrique, entre des courants froids qui créent un contraste très fort avec l'air chaud et humide préexistant, le sol chaud et la Méditerranée qui elle aussi se réchauffe. Et alors arrivent les désastres.
Plutôt que de tropicalisation du climat italien, l'expert préfère parler d'extrémisation. Elle a un coût, celui des inondations en Émilie-Romagne et Toscane en mai dernier est estimé à plus de 10 milliards d'euros.
Parmi les rares avancées soulignées par Copernicus, le développement des énergies renouvelables. L'année dernière, la proportion d'énergie verte, d'électricité verte a atteint un record, 43% de la production totale en Europe. Et nous reviendrons largement sur ce rapport et ses conclusions avec l'invité du journal de 12h30, Mathieu Chevalier, responsable chez Copernicus de l'équipe pour les produits météorologiques et climatiques. Israël ne relâche pas la pression à Gaza et promet même d'infliger de nouveaux coups durs au Hamas dans les prochains jours. Parmi les cibles, Rafah, la ville frontalière où vivent 1,5 million de Gazaouis déplacés, et le dernier bastion du mouvement islamiste palestinien selon l'armée israélienne. Des annonces dont l'objectif est aussi de rassurer la population israélienne. Depuis l'attaque du 7 octobre, il y a presque 6 mois, les manifestations se multiplient pour appeler le gouvernement de Benjamin Netanyahou à faire plus pour libérer les otages. Il y en a officiellement 129, mais 34 sont présumés morts. Et alors que débute aujourd'hui Pessah, la Pâque juive, tous les Israéliens sont appelés en geste symbolique à laisser une chaise vide à leur table. Ajra Mohamed.
Yotam Cohen fait défiler les photos sur son téléphone. Ce sont les dernières fêtes de Pessah en famille.
This is the whole family, 2 years ago.
C'est toute la famille 2 ans avant. Moi, Nimrod, ma sœur, mes parents. On avait mis nos tenues de fête. On s'amusait. On ne prendra pas cette photo cette année. Malheureusement.
Cette année, pas de célébration. Son petit frère Nimrod est toujours otage à Gaza.
Pessah est un jour qui symbolise la liberté. Comment pourrais-je célébrer la liberté quand mon frère est encore retenu? C'est absurde.
Sharon Lifshitz, elle, ne sait pas si son père, Oded, est encore en vie, mais elle a décidé de rejoindre les membres de son kibboutz pour un grand dîner ce soir, une épreuve de plus en réalité.
C'est une situation impossible, parce que lorsqu'on se rencontre, on est vraiment confronté au traumatisme. Il se reflète dans les yeux de chacun.
En Israël, le soir de Pessah, il y a ce chant traditionnel qu'on entonne en famille.
Qu'est-ce qui est différent cette nuit par rapport aux autres? Pour nous, rien n'a changé. Pour moi, on est toujours la nuit du 7 octobre. Il n'y a rien à célébrer quand les otages sont encore à Gaza.
Au lieu de fêter Pessah, Yotam ira manifester ce soir pour réclamer la libération de son frère et de tous les autres otages.
Ajra Mohamed à Tel Aviv avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Après les remerciements, Volodymyr Zelensky appelle les Américains à finaliser au plus vite leur enveloppe d'aide à l'Ukraine. Samedi, la Chambre des représentants a approuvé le déblocage de 61 milliards de dollars. Un renversement après plusieurs semaines de blocage sur lequel est revenue Catherine Dutu dans sa revue de presse internationale. Reste maintenant une dernière étape, le vote du Sénat demain qui devrait être une formalité. Après, il faudra encore plusieurs semaines au moins pour que cette aide se traduise en munitions sur le front. Pas de quoi apaiser les Ukrainiens épuisés par 2 ans de guerre. Le reportage à Kharkiv, la deuxième ville du pays, de notre correspondante Maureen Mercier.
À Kharkiv, Yuri Sapronov est un personnage incontournable. Homme d'affaires, millionnaire, Yuri est russe d'origine, mais le régime de Poutine, il le maudit. Yuri se sent plus ukrainien que les Ukrainiens. Oui, il est soulagé que cette enveloppe ait enfin passé le cap du Congrès, mais...
Je suis très en colère.
En fait, Yuri dit tout haut ce que bon nombre d'Ukrainiens pensent tout bas. Il est reconnaissant, mais ne cache pas son écœurement pour autant. Il le rappelle, d'abord, cette aide est vitale, mais elle arrive trop tard pour être réellement efficace. Ensuite, elle ne suffira pas. Il tient à lire ce message qu'il a publié sur les réseaux sociaux.
Vous comprenez ce que vous nous promettez? Faites-le. L'Amérique nous avait promis que cet argent arriverait au mois de décembre. Cette guerre qui détruit nos villes et nos villages, qui tue notre peuple, qui détruit l'Ukraine, le monde entier en profite, je vous le dis. Vous en profitez à tout point de vue. Vos usines d'armement tournent à plein régime, vous testez vos armes. Et pour affaiblir la Russie, ce sont les Ukrainiens qui meurent. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'une zone tampon. Et à mon avis, il n'y aura ni OTAN, ni Union européenne pour l'Ukraine.
À aider de cette façon, pas suffisamment et pas assez rapidement, vous prolongez la guerre, dit-il, indéfiniment.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand et un nouveau procès près de 8 ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice.
Oui, procès en appel, il s'ouvre aujourd'hui à Paris devant la cour d'assises spéciale. À la barre, 2 des accusés condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Le conducteur de la camionnette qui a fauché 88 personnes et blessé 450 autres a lui été abattu le soir de l'attentat. Pour de nombreuses victimes, ce procès est donc une nouvelle épreuve, un mélange d'épuisement personnel et professionnel pour Célia Vial. Le 14 juillet 2016, elle a perdu sa mère. Son père, lui, a été gravement blessé. Depuis, elle est devenue coprésidente de l'association Promenade des Anges.
C'est très difficile et j'alerte les pouvoirs publics sur la condition des bénévoles qui sont eux-mêmes victimes et qui tiennent les associations à bout de bras, que ce soit de partout. Hein. On a quand même la même lassitude de partout, dans n'importe quelle ville concernée. C'est très compliqué parce qu'en fait, on est toujours confronté au même problème qu'au début, sauf que nos moyens baissent. À titre d'exemple, nos subventions municipales, en tout cas, ont baissé drastiquement. Ça ne permet même pas de couvrir l'une de nos actions principales, qui est par exemple le soutien scolaire. Rien que ça, on n'arrive pas à le financer entièrement par la municipalité. Et à côté de ça, on propose aussi beaucoup d'autres choses. Il faut nous mobiliser notre temps, notre énergie au quotidien. Et quand on alerte la déléguée interministérielle notamment, à l'aide aux victimes, bon ben, on n'a pas de réponse en fait. On nous dit « vous avez essayé le mécénat ». Voilà. On a comme une espèce de mission de service public, mais sans moyens, et nous-mêmes en étant tous bénévoles. Il faut réussir à conjuguer ça avec notre reconstruction personnelle et ou professionnelle. Enfin, c'est quasiment impossible, en fait.
Témoignage recueilli par Florence Turm. Ce procès doit durer jusqu'au 14 juin prochain. Une campagne à l'euro près, ou presque, après à moins de 2 mois des élections européennes du 9 juin prochain. La même préoccupation gagne les différentes listes. Trouver de l'argent. C'est normalement une formalité pour les partis les mieux représentés. Il suffit d'atteindre 3% des voix pour être remboursé. Et pourtant, l'inflation, l'endettement et la baisse des ressources contraignent les équipes de campagne. L'heure est donc à la sobriété, Jeanne Serrin.
Un plafond de dépenses fixé à 9,2 millions d'euros maximum. La marge est élevée et pourtant, au Rassemblement national, Jordan Bardella, favori pour l'instant dans les sondages, dispose de 4,3 millions d'euros pour faire campagne. Pas plus. Le parti reste lourdement endetté auprès de ses militants et l'argent part vite. 400 000 euros ont déjà été dépensés pour le meeting organisé à Marseille début mars. Les meetings, ce sont eux qui coûtent cher et requièrent en plus de l'énergie et du temps pour finalement peu de résultats dans les urnes. Et cela, tous les partis l'ont bien compris. La campagne se fait donc lors de petites réunions publiques beaucoup moins onéreuses. Chez les Verts, les européennes sont leur scrutin fétiche et pourtant, on fait des coupes partout, explique l'entourage de la tête de liste Marie Toussaint qui dispose d'une enveloppe de 4,4 millions d'euros. Les prix ont augmenté avec l'inflation alors que les ressources, elles, ont baissé pour plusieurs partis. Leur budget étant largement conditionné à leur score aux élections législatives. Ça sera donc 4 millions d'euros pour le candidat de gauche, Raphaël Glucksmann, 3 millions seulement pour François-Xavier Bellamy à droite. Certains, enfin, envisagent déjà que le rapport coût-bénéfice leur sera défavorable. L'UDI a rallié la liste macroniste. Nicolas Dupont-Aignan, qui n'était pas assuré de franchir la barre des 3%, a lui aussi décidé de passer son tour pour se concentrer sur 2027.
Première étape aujourd'hui d'un long parcours parlementaire pour le projet de loi fin de vie. Il arrive à l'Assemblée nationale et sera d'abord examiné en commission spéciale pendant un mois. Son vote final, lui, ne devrait pas intervenir avant 2 ans. Parmi les grandes lignes du texte, l'aide à mourir, définie et limitée à 3 conditions, elle ne concernera, selon la version proposée aujourd'hui, que les majeurs en pleine possession de leurs moyens et atteints d'une maladie incurable dont le décès est annoncé à court ou moyen terme. Les critiques fusent depuis une semaine à Aix-en-Provence, depuis l'installation d'une œuvre d'art monumentale dans le centre-ville. Une sculpture intitulée Hymne est exposée avenue Mozart à l'occasion de la Biennale d'Aix. Cette création est signée de l'artiste contemporain Damien Hirst. Elle intrigue certains, elle en agace d'autres et repose une vieille question. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art, Chloé Leprince ?
Un buste humain, taille XXL, viscère apparente et couleur criarde du bronze peint aux allures de plastique. On dirait plutôt un immense docteur Maboul, sauf que c'est de l'art. L'art, c'est plus que c'était. C'est ce qu'on peut lire sous la photo publiée la semaine dernière sur ses réseaux sociaux par la ville d'Aix-en-Provence. L'art, c'est plus que c'était. Ça fait un siècle que c'est là. Question qui travaille la définition d'une œuvre d'art. Et si vous visitez la rétrospective Brancusi, qui court jusqu'au 1er juillet au centre Pompidou à Paris, vous verrez l'un des oiseaux de l'artiste roumain dont on dit qu'il a inventé la sculpture moderne. Sauf qu'à l'époque de Brancusi, qu'il s'agisse vraiment d'œuvres d'art, eh bien ça n'allait pas de soi. Ça fera même l'objet d'un procès, c'était aux États-Unis en 1928. Une affaire qui durait depuis 2 ans et une exposition à New York. L'artiste avait expédié une 20aine de sculptures. Marcel Duchamp était chargé de réceptionner la cargaison. Sauf qu'au moment de décharger le bateau, les Brancusi avaient été taxés au prix fort comme de simples biens manufacturés. Les douaniers avaient refusé d'appliquer la franchise en vigueur pour les œuvres d'art. 4000 dollars de taxes pour commencer et un vrai feuilleton dans la presse américaine. L'artiste avait fait un procès aux douanes. Son oiseau, qu'il avait vendu au Photograph Station, avait été taxé 40% de sa valeur sous prétexte qu'il n'aurait franchement pas grand-chose d'un oiseau. Le seul fait que le sculpteur l'ait appelé oiseau en fait-il un oiseau? C'est une des pépites de l'archive de ce procès resté fameux. Le juge avait finalement répondu oui. Brancusi versus United States, c'est resté comme le jugement qui définira longtemps ce qu'est une œuvre d'art.
Chloé, le prince, la météo avec encore des averses sur la Normandie et le Nord-Est, le retour aussi de la neige en basse altitude, dès 400 mètres ce matin sur les Alpes, les Vosges et le Jura. Sur le reste du pays, le temps reste sec. Les températures autour de 0 degré ce matin sur le Nord-Ouest, entre 1 et 6 sur le reste du pays. Et cet après-midi, de 8 à 12 en général, de 12 à 17 dans le Sud.